Je voulais juste vous dire merci de braver la neige et puis le mauvais temps pour être là. C'est une grâce, c'est un privilège. Et puis c'est aussi une manière de dire que Dieu occupe vraiment une place importante dans notre vie. Laisser la chaleur de la maison pour venir ici. Je suis vraiment reconnaissant et je bénis Dieu pour ceux-là qui sont là. Je sais que d'autres ne sont pas venus, peut-être certains sont malades, peut-être comme John a annoncé que ce dimanche on ne devait pas avoir le chauffage, peut-être ceux-là qui ont compris l'annonce de John et puis ils ont dit que non, vraiment je ne serai pas là parce que je ne peux pas supporter le froid. Bon, peut-être que c'est la faute de John parce qu'il avait annoncé. Je ne pense pas. C'est juste pour une manière de dire. Donc, je vais entrer directement dans notre message de ce matin. Et vous savez, je suis vraiment reconnaissant que Dieu ait mis dans le cœur de John que nous puissions passer le temps dans le livre d'Apocalypse. Je voulais confesser ici que au début, nous regardons ce livre-là comme un livre mystique, difficile à comprendre. Trop de choses, trop de paraboles là-dedans, trop de figures, dont les gens ont peur, même les chrétiens ont peur de lire. Et en réalité, ça fait partie de l'avertissement de Dieu pour son peuple. Ça fait partie de la parole de Dieu et nous ne devons rien négliger. Alors, John avait bien introduit la fois passée et je crois que par la grâce de Dieu, je veux continuer avec l'église de Smyrne. Je vais donc lire Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Je vais lire ici. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Bon, le thème de notre message de ce matin, c'est quel genre d'église nous voulons avoir? Quel genre d'église désirons-nous? L'église qui persévère dans la souffrance, dans les difficultés, dans la souffrance, c'est cette église de Smyrne que nous allons voir ce matin. Donc, John donne dans son premier message sur le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, avait donné un résumé très riche et clair que parfois, et ce livre parfois dont certaines personnes, certains chrétiens évitent de lire en disant que c'est difficile à comprendre et que même c'est effrayant dans son contenu. Alors je voudrais vous encourager d'aller dans notre website et d'écouter encore ce message d'introduction que John a donné il y a cela 2 semaines, ou le dernier dimanche de l'année. Bien-aimés, nous devons donc savoir que cette lettre ou cette église par le Seigneur s'adresse aux églises à travers l'histoire, mais aussi aux individus, aux chrétiens aux chrétiens à travers les siècles. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui ont décidé de marcher avec lui malgré les difficultés, malgré les tribulations qu'ils peuvent rencontrer. Cette visite bien-aimée de Jésus à l'église de Smyrne, aujourd'hui, Izmir, dans la troisième grande ville de la Turquie, toujours dans le contexte de la vision que Jean avait reçu à l'île de Palmos, dans ce contenu bien-aimé, rappelons-nous que Jean avait entendu une voix forte s'adressant à lui, puis se retournant pour voir ce qui était derrière cette voix, il avait vu le Seigneur Jésus au milieu de cette chandelle d'or. Alors, représentant de cette église d'Asie mineure, nous devons bien aimer aussi, dans cette note, donc, connaître que l'église donc, de Smyrne est une église qui traversait donc par la souffrance, par des problèmes, par des difficultés. Et Jésus, donc, se tenant au milieu de cette chandelle d'or représentant l'église, voulait signifier qu'il n'est pas, il est là, il n'est pas absent. Il connaît les problèmes qui se passent dans l'église. Il connaît les problèmes que les chrétiens étaient en train de traverser. Donc la présence de Jésus est importante. Parce que parfois, quand nous marchons dans notre vie chrétienne, nous traversons des difficultés, des problèmes, et parfois on se demande si Jésus est au courant, si Jésus est là au milieu de nous. Donc Jésus, en étant au milieu de ces chandeliers, voulait montrer, consoler l'église de Smyrne qui traversait donc par des problèmes. Alors, bien-aimés, le point numéro un que nous voulons voir, c'est l'identité même de l'église de Smyrne. Alors Jésus dit, je connais. Alors quand Jésus dit, je connais tes œuvres, tes souffrances. Alors, bien-aimé, si le fait de savoir que le Seigneur Jésus sait et connaît les problèmes que traverse l'Église, lorsque dans son sein, il y a donc, bien-aimé, des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui nous aspirent la crainte, parce que si Jésus connaît peut-être des problèmes qui se passent dans l'église et qui ne le glorifient pas, cela doit plutôt aspirer la crainte, le tremblement, pour dire que mais Dieu connaît mes péchés, Dieu connaît tout le désordre que je suis en train de faire. Mais dans le cadre de cette église de Smyrne, la présence de Jésus était plutôt encourageante. Alors Jésus pouvait les encourager. Donc la présence de Jésus était une consolation pour cette église de Smyrne. Donc il dit, je connais tes problèmes, je connais tes souffrances. Alors le Seigneur bien-aimé se montre, ne se montre pas ici effrayant dans le cas de l'église de Smyrne, mais consolant. Le Seigneur connaît les difficultés que cette église devait passer, que cette église était en train de passer à travers. Bien-aimé, dans toute leur détresse, le Seigneur connaît. Alors, dans Ésaïe, chapitre 63, verset 9. Alors, je voudrais nous lire cela ici, bien-aimés, que nous comprenons que Jésus n'est pas étranger dans certaines situations que nous traversons en tant que chrétiens, en tant qu'église, en tant que famille. Jésus connaît, il sait tout. Si nous mettons, si nous avons mis notre confiance en lui, bien-aimés, nous ne devons pas nous inquiéter, parfois quand nous traversons pas des tribulations. Alors dans Ésaïe chapitre 63 verset 9, il est écrit, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut dire ici qu'il dit, nos détresses sont ses détresses, nos problèmes sont ses problèmes, tes problèmes sont les problèmes du Seigneur. Il connaît, il sait, et sa présence était un grand encouragement pour l'église de Smyrne qui traversait par des moments vraiment difficiles. Alors Paul, bien-aimé, dans Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Alors Paul disait, il a posé la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse qui va te faire abandonner de continuer à le suivre? Alors Paul pose la question, sera-t-il l'angoisse, la persécution, la famine, le péril, l'épée? Il dit, je suis persuadé, bien-aimé, pour ma part, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature n'a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimé, en lisant l'apôtre Paul et en regardant sa vie, en voyant comment il a souffert à cause de l'évangile, comment il était prêt à mourir pour l'évangile, nous voyons bien-aimé qu'à notre époque, qu'est-ce qui va nous empêcher de pouvoir continuer à mettre notre foi en Jésus? Est-ce que c'est le manque d'emploi? Est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Est-ce que c'est les problèmes que tu rencontres dans ta famille? Est-ce que c'est le froid, comme le cas de ce matin? C'est la neige qui va nous empêcher de le suivre? Ou bien, qu'est-ce qui peut te séparer? Qu'est-ce qui nous menace chaque jour pour nous empêcher de persévérer dans notre foi? Qu'est-ce qui est comme un obstacle pour nous empêcher de nous consacrer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle le dimanche? Qu'est-ce qui peut être comme obstacle pour nous empêcher d'entrer dans la communion avec Dieu, dans la prière personnelle? Je sais, bien-aimé, que parfois, nous sommes tellement occupés par des choses que dans la semaine, nous n'avons pas le temps pour lire notre Bible. Nous n'avons pas le temps pour nous asseoir et prier un peu. On est bousculé par-ci, par-là. Est-ce que c'est ça, peut-être en cherchant notre pain quotidien, en cherchant l'argent, est-ce que c'est ça, bien-aimé, qui va mettre un frein dans notre relation avec Jésus? Bien-aimé, la relation avec Jésus s'entretient. Ce n'est pas que nous disons qu'on est sauvé et puis ça va. Il y a des choses, bien-aimé, qui impliquent cette relation. Est-ce que nous avons communiqué avec Jésus? Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, s'il y a ici parmi nous, ce matin, quelqu'un qui a connu la souffrance et la persécution pour Christ au point que l'on connut dans l'église des martyrs du 1er, 3e siècle. Pourtant, les paroles de Jésus, dans les souffrances que nous pouvons vivre pour lui, dans ce monde, à cause de notre foi, sont aussi pour nous, bien-aimés, car il connaît ce que nous vivons aujourd'hui. Il connaît ce que nous traversons en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'église. Il connaît que nous avons besoin du système de chauffage qui coûte près de 40 000 dollars pour une petite église qui n'attend même pas 100 personnes, pour une église qui n'a rien. Le Seigneur connaît que ce matin, nous devons être sans chauffage. Et ça n'empêche pas, bien-aimé, qu'il soit là au milieu de nous. Et qu'il soit là, bien-aimé, pour nous bénir, pour recevoir notre adoration, nos louanges. Il connaît, bien-aimé, ce que nous vivons. Il connaît ce que nous traversons. Il voit, il connaît. Bien-aimé, que cette certitude puisse être notre première source de consolation chaque jour dans notre vie. Que le fait que Jésus connaît nos vies, connaît notre présent, connaît notre futur, connaît notre passé, que cela nous encourage à persévérer, quelles qu'en soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Bien-aimé, le deuxième point, il dit, je connais ta détresse, ta pauvreté, les calomnies. Quand Jésus dit, bien-aimé, qu'il connaît les problèmes de cette église en souffrance, il connaît réellement. Il fait le tour de ce que cette église traverse comme problème, comme difficulté. Il connaît sa détresse. Il sait extrêmement bien aimé exactement ce par quoi cette église est en train de traverser. Il sait de quoi sa douleur et sa souffrance est faite. Il a mesuré parfaitement, étant d'ailleurs lui-même passé par là avant. Il a souffert lui-même, donc il connaît ses souffrances. Mes chers amis, quelles qu'en soient dans les épreuves, les persécutions, le rejet que tu traverses en ce moment, peut-être dans ta marche chrétienne, rappelons-nous, bien-aimés, qu'il est impossible que Jésus y soit étranger. Quels qu'en soient les problèmes que tu traverses, ne croyons pas que Jésus ne connaît pas. Parfois, c'est facile de dire, « Oh Dieu, est-ce que tu vois ce que je passe ? Oh Dieu, est-ce que tu vois même mes souffrances là ? Oh Dieu, peut-être que tu m'as abandonné. » Parfois, le Seigneur reste là, il rit. Il dit, « Non, moi j'ai orchestré cela pour que tu puisses t'attacher davantage à moi, pour que tu puisses davantage me connaître, me chercher de tout ton cœur. » Bien-aimé, tu peux, peut-être, il est impossible, bien-aimé, que tu n'en passes pas des choses que Jésus ne connaît pas. Jésus n'est pas étranger. Si nous connaissons la prison, les coups, l'humiliation, les calomnies, sachant que Jésus les connaît, déjà l'a connu avant nous, soyons en certains, bien-aimés, parce que Jésus l'a vécu avant nous. Il sait ce que cela signifie de passer par la détresse, aussi avoir communion avec ses souffrances. Il veut nous préparer à passer par là pour notre bien, afin que nous puissions davantage nous attacher à lui. Bien-aimés, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, alors Paul écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, en effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. C'est dans les épreuves, la souffrance, que nous connaissons davantage qui est Jésus. Bien-aimés, en réalité, quand nous passons par certaines situations, peut-être difficiles, peut-être que nous ne pouvons même pas comprendre pourquoi nous le traversons. Mais le Seigneur voulait que nous puissions gagner de l'expérience et que demain, nous soyons capables d'encourager ceux-là qui passent par là, d'encourager ceux-là, peut-être qui viennent de connaître le Seigneur et qui croient que peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur ne connaît pas. Bien-aimés, en Christ, le Seigneur Jésus nous forme afin que nous soyons capables de fortifier aussi la foi des autres. Alors Philippiens 3, à partir du verset 10, il dit ceci, Paul dit, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière et d'une autre à la résurrection des morts. » Bien-aimé, voici quelqu'un qui passait par des tribulations horribles, qui était en prison, enfermé, mais qui n'était pas découragé, qui ne s'était pas plaint pour dire, « Seigneur Jésus, tu es capable d'ouvrir les portes de la prison pour que je sorte. » Et dit que non, que je sois en prison, que je sois libre, ma bouche ne sera pas fermée. Je veux proclamer l'évangile de Jésus. Personne ne pouvait le stopper, même dans la prison. Il glorifiait le nom de Dieu et il ne faisait qu'encourager les autres Parce que même ceux qui n'étaient les chrétiens, qui n'étaient pas en prison, pleuraient pour Paul. Pour dire, regarde, voilà notre leader qui est en prison. Et Paul maintenant, qui traversait par ces épreuves, pouvait les écrire pour dire, soyez encouragés. Soyez réconfortés. Jésus n'est pas étranger. Il est là. Il connaît la situation plus que quiconque. Bien-aimé, il connaît ensuite sa pauvreté, quoique riche. Alors, bien-aimé, c'est parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas cette situation, peut-être la richesse, la pauvreté, peut-être d'autres qui cherchent peut-être à s'amasser des richesses, quoique c'est ça, vraiment la véritable richesse. Bien-aimé, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Et même ceux-là qui prient, oui, je n'ai pas de problème avec la richesse. Mais si Dieu t'a béni et que tu es riche, gloire à Dieu. Mais bien-aimé, cette église était pauvre. Et peut-être parce qu'elle passait par des moments difficiles. Mais Jésus dit que tu es riche. Pourquoi tu dis que tu es pauvre? Alors Jésus, bien-aimé, répond. Pas seulement à la situation extérieure par laquelle passe cette église, mais aussi au sentiment intérieur qu'il habite. Alors le sentiment qui habite en réalité, bien-aimé, un chrétien qui passe par la souffrance, c'est celui d'un impuissant. C'est celui de sa faiblesse face à l'injustice. Pauvre chrétien enfermé dans une prison, livré à la mort, pauvre au point d'avoir tout perdu jusqu'à son droit le plus élémentaire. Jésus répond, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Eh bien, vois-moi, je dis que tu es riche. Tu montres, bien-aimé, que tu es capable de tout perdre, y compris ta propre vie. Alors, bien-aimé, tu témoignes au monde que tu possèdes en toi un trésor qui vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Bien-aimé, le monde peut dire que nous avons tout perdu. Peut-être que tu as perdu ton emploi, tu as perdu ta maison. Mais la joie qui t'anime, parce que tu sais que ta demeure n'est pas de ce monde et que tu as une place là-bas au ciel que personne ne peut t'arracher, bien-aimé. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, rien ne devait nous attacher dans ce monde. Nous ne devons pas nous attacher aux choses éphémères parce que tout passe. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas bien pour nous de nous inquiéter de certaines choses qui se passent tout autour de nous. Et que peut-être nous n'arrivons pas à le faire. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas en travaillant dur et négliger la parole de Dieu et négliger la communion fraternelle que tu deviendras riche. Mais c'est en mettant la priorité sur celui-là qui t'a appelé, sur celui-là qui est en train de préparer une place pour nous et qui reviendra nous chercher afin que nous soyons avec lui, bien-aimés, loin de ce monde et tous ses problèmes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous passons des moments où beaucoup de personnes n'ont pas de salaire parce que une personne ou quelques personnes ont décidé de fermer le gouvernement pour dire que vous n'avez pas de salaire jusqu'à ce que moi, je décide. Bien-aimés, si tu es dans la catégorie de ces personnes, je voulais te dire que Jésus connaît. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il prendra soin de toi. Sois joyeux. Sois content du fait que tu passes par ces moments difficiles. Du fait que tu traverses par ces moments de tribulation. Le Seigneur connaît. Il connaît toutes choses. Amen. Même pour moi. Le Seigneur connaît, bien-aimé. Il connaît que nous devons, en ce moment, passer par cette situation et que personne ne puisse se réjouir pour dire que c'est moi, pour dire que je le sais. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit, ne crois pas que tu es pauvre parce que tu n'as pas d'argent, Parce que tu n'as pas suffisamment d'argent, tu es riche parce que tu connais le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est le plus grand trésor, bien-aimé. La plus grande richesse que nous pouvons avoir, c'est de le connaître. C'est de maintenir notre relation avec lui. Bien-aimé, Marc 8, 36 dit ceci. La richesse véritable ne se trouve pas du côté de ceux-là qui... Marc dit donc, bien-aimé, que la richesse, la véritable richesse se trouve en Jésus. Ce n'est pas ailleurs, c'est en lui que nous sommes riches. Et puis l'autre point, bien-aimé, ici, il dit qu'il connaît les calomnies dont vous êtes l'objet. Les calomnies de la part des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Bien-aimé, si la souffrance physique est sans doute l'un des aspects les plus insupportables de la persécution, je crois, bien-aimé, qu'elle n'est pas seule. Il arrive parfois, bien-aimé, que le fait d'être calomnié, faussement accusé, dépasse en souffrance, bien-aimé, que les coups peuvent produire. Je m'explique, bien-aimé. En réalité, parfois les accusations, les fausses accusations, les problèmes que nous pouvons rencontrer, les gens qui peuvent dire des choses de nous, ça peut parfois dépasser les coups ou les coups que nous pouvons recevoir de la part des gens. En réalité, je sais, en tant qu'enfant de Dieu, parfois il est facile, bien-aimé, de supporter des coups que les gens peuvent te donner. Mais quand les gens mal parlent de toi, quand on te prend, on t'accuse sur des choses que tu ne connais pas, et on est même prêt à te mettre en prison. Je t'assure, parfois, ça fait tellement mal. Parce que ces chrétiens de Smyrne souffraient parce que ils étaient accusés faussement. Parce qu'on voulait les empêcher de continuer à suivre Jésus ou de proclamer la parole de Christ. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, si les gens t'accusent faussement, si les gens te calomnient, parfois, c'est facile de chercher à se venger. Mais nous devons reconnaître que Dieu le permet afin que nous puissions davantage bénir nos ennemis, prier pour nos ennemis, prier pour ceux-là qui nous calomnient. Et je le dis souvent, que si Dieu est en accord, bon accord avec moi, et que ma femme est fière de moi, dites tout ce que vous pouvez parler, vous pouvez dire de moi. Je sais une chose, je veux seulement regarder en avant, je veux continuer à persévérer, parce que Dieu, si je suis approuvé par Dieu, le reste, je n'ai pas à combattre pour dire que tel a dit telle chose ou telle autre chose. Alors le Seigneur leur dit qu'il connaît ces calomnies. Il est là, il sait, il est là pour encourager, pour les fortifier, pour les consoler. Bien-aimés, soyons consolés. Cependant, car il connaît la détresse par laquelle nous traversons. Jésus connaît aussi la validité des accusations, bien-aimés, dont nous pouvons être l'objet. Si nous n'avons rien à nous reprocher devant Dieu, alors nous n'avons pas, bien-aimés, à tenir compte des accusations dont nous pouvons être l'objet de la part des hommes. Alors Matthieu 5, 12, 11 à 12 dit ceci. Jésus dit que nous devons nous réjouir plutôt nous réjouir, bien-aimés. Si les gens disent faussement des choses contre nous, parce que notre Dieu, lui, il connaît. Bien-aimés, nous devons plutôt nous réjouir, Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Nous devons bénir nos ennemis. Nous ne devons pas nous chercher à nous défendre. Bien-aimé, et un autre point très important ici que nous voulons voir, c'est qui est notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, c'est qui? Ce n'est pas ceux-là qui nous calomnient, mais il y a quelqu'un d'autre derrière. Celui-là, c'est le diable, c'est Lucifer. C'est lui qui les utilise pour chercher à nous détruire, pour chercher à nous décourager de continuer notre marche avec Jésus. Même comme ce sont des personnes bien-aimées, physiques, qui nous persécutent, qui persécutent l'Église, Jésus tient, bien-aimés, à les faire comprendre que leur véritable adversaire derrière leur souffrance, le véritable adversaire derrière leurs arrestations, derrière leur emprisonnement, leur persécuteur, leur calomniateur, derrière tous ces gens, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est l'ennemi numéro un. C'est lui qui utilise. C'est pour ça, bien aimé, que nous ne devons pas nous combattre les uns les autres. Mais regardons plutôt l'ennemi qui cherche à nous diviser, à nous cogner les têtes les uns les autres. Et soyons prudents et regardons, ayons des yeux fixés sur le Seigneur. Et là, nous allons faire honte à Satan. Bien-aimés, jamais une seule fois, il n'apparaît dans le discours et le comportement de Jésus que celui-ci considérait les hommes comme ses véritables adversaires. Notre véritable adversaire, donc, c'est l'ennemi, c'est le diable. Alors les personnes bien-aimées qu'il utilise pour nous calomnier ne sont pas nos ennemis. Alors Luc 6, verset 27 à 28 dit ceci. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux-là qui vous maltraitent. » Bien-aimés, nous devons connaître que Satan jouisse encore d'une grande liberté et qu'il possède un grand pouvoir. Tout ce qu'il fait au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, est contrôlé parfaitement par le Seigneur. Donc, il ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne va pas permettre que les gens puissent peut-être nous détruire davantage, ou bien que les gens puissent nous écraser. Non, à un certain moment, comme dans le cas de Job, Dieu dit « Stop, ça va !» Et il siffle que la récréation est finie et tout ira bien si nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quel genre d'église voulons-nous avoir cette année 2019? Alors, en début d'année, on dit souvent qu'on prend des résolutions et tout, mais depuis un certain temps, moi, je ne prends plus de résolutions, mais je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Conduis-moi dans ton plan parfait. Ce que tu me donnes, je prends. Mais que, de ma part, je puisse faire ce qui est mieux pour que je sois agréable à toi. Et bien aimé, c'est une lutte de chaque jour. Et nous le disons dans cette église. Alors quand je regarde quel genre d'église je désire avoir, bien aimé, je regarde l'église dans les Actes des Apôtres, où les gens étaient régulièrement, assidûment dans l'église, dans des maisons, ils se réunissaient, ils rompaient le pain chaque jour, et la présence de Dieu était avec eux. Il y avait l'amour sincère, l'amour véritable, au point où ils amenaient tous leurs biens ensemble, ils se partageaient. La présence de Dieu était là. Quel genre d'église, bien-aimé, je désire pour nous cette année? Une église, bien-aimée, où les gens sont remplis de la crainte de Dieu, où les gens cherchent Dieu de tout leur cœur, où les gens ont pour priorité Dieu et Dieu seul. Et quand je lis les actes des apôtres, bien-aimés, je me demande si ces gens-là travaillaient. Je sais qu'ils travaillaient parce qu'ils vendaient quand même certains de leurs biens. Et ils apportaient aux pieds des apôtres. Et puis on distribuait. Et il n'y avait pas de démunis. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches. Parce que tous, ils avaient tout en commun. Quel genre d'église, bien-aimés, je désire. Alors, bien-aimés, quand nous, on grandissait encore, quand on venait de croire, on parcourait des dizaines de kilomètres pour aller à l'église. Et je vous dis une chose, bien-aimé, la présence de Dieu était réelle. La crainte de Dieu y était. Et que quand on marchait à pied pour aller dans l'église appelée Tinga, on courait. Et quand on arrivait en retard, quand on était à 5 minutes avant le culte, on courait pour ne pas être en retard. Bien-aimé, et chaque fois, bien-aimé, quand samedi arrivait, on était content. Oh, encore un autre dimanche où nous allons aller adorer Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Quel genre d'église nous avons? Je sors du Cameroun où j'ai eu l'occasion de prêcher à une grande convention où il y avait au moins 500 personnes venues de partout au Cameroun. Et j'ai eu le privilège de pouvoir diriger le groupe des jeunes. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Je pense que l'émotion, peut-être des chrétiens africains, peut-être les pousse à dire tout, à ne pas cacher. Alors quand je prêchais, quand j'enseignais, alors c'est à la fin du message, les jeunes couraient vers moi, un à un. D'autres venaient me dire, « Pasteur, moi je suis jeune et j'ai mon petit ami. » Quand on grandissait dans l'église, on avait seulement des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, même dans l'église africaine, on a des petits amis, des boyfriends, girlfriends. Alors ils me disent, « Non, pasteur, moi j'ai ma petite amie, mais parfois elle vient dormir avec moi, chez moi. » Au matin. Mais on ne fait rien. Est-ce que c'est le péché? Donc les gens ne connaissent plus ce qu'on appelle péché. Mais la crainte de Dieu, bien-aimé, doit animer nos cœurs afin que nous puissions reconnaître que nous, si nous voulons vivre pour Christ, si nous voulons mener une vie qui plaise à Dieu, nous devons fuir ces choses. Et parfois, bien-aimé, nous cherchons certaines épreuves parce que la jeune fille qui me disait que non, voilà, je pense que je peux aller dormir chez mon petit ami, ainsi de suite. Et quand je lui parlais en ouvrant les Écritures, ses yeux s'ouvraient et dit que non, personne ne m'avait jamais dit cela. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous avons besoin d'une église qui lit la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur John ou le pasteur Steve ou moi qui devons nous vous dire tout le temps. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, bien-aimé, tu découvres ces choses. Et là, nous formons une église qui glorifie le nom de Dieu. Je pense que nous n'avons pas peut-être assez averti le peuple de Dieu et dit que si nous vivons dans la grâce de Dieu, ce n'est pas une excuse pour nous de vivre dans la désobéissance, de vivre dans le péché, de déshonorer Dieu dans notre marche. Mais lui, il est là ce matin. Et il dit que je connais. Je connais la situation que tu traverses. Je peux ne pas connaître. Mais bien-aimé, Dieu connaît la situation dans laquelle tu vis. Peut-être que tu t'es débrouillé toi-même plusieurs fois pour pouvoir sortir de la situation. Tu n'as pas pu. Mais je crois que les pasteurs sont là. Il y a le numéro, tu peux appeler. On peut t'aider afin qu'ensemble, nous puissions marcher dans la sanctification. Afin que nous puissions traverser par ces moments difficiles. Afin que nous puissions traverser par ces moments d'épreuve en rendant grâce à Dieu. Quel genre d'église, bien-aimé, nous prions pour cette année? C'est une église, bien-aimé, que quand on prêche la parole de Dieu, on n'a même pas besoin de lancer l'appel, mais que les gens viennent. Comme au Cameroun, dernièrement, à la fin du message, Il ne demandait pas aux gens de venir, mais les gens venaient se mettre à genoux. Pas devant moi, devant Jésus pour dire que non, nous sommes coupables. La parole que tu as prêchée, l'évangile que tu as prêché, et même comme plusieurs fois, ils disent que quand nous partons au Cameroun avec les John Steve, ils disent toujours que le message que nous avons, que ça fait depuis des années qu'ils n'écoutent plus ce message dans l'église. Bien-aimés, nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de la parole non diluée. Nous avons besoin de déclarer la parole de Dieu dans sa totalité, dans la vérité. Ce matin, bien-aimés, avant que je ne conclue, je voudrais nous rappeler une chose. Pendant que nous baissons nos têtes, dans la prière, Jésus dit, il connaît ta situation, il connaît ta vie. Bien-aimé, si ta vie ne le glorifie pas d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas des juges. Nous sommes là pour rappeler la parole de Dieu, pas seulement à vous-même et à nous-mêmes. Pour dire, Dieu connaît ma vie, il connaît ta vie. Il connaît ce que nous faisons dans la nuit noire. Rien n'est caché devant lui, bien-aimé. Parfois, nous croyons qu'il ne connaît pas. Il connaît. Il connaît même ce qui est dans nos cœurs. Mais pourquoi ne pas lui donner l'occasion ce matin de te transformer, de te changer, en disant, Seigneur, je te demande pardon. Et si tu ne peux pas t'en sortir tout seul, nous avons nos numéros sur le bulletin. Tu peux appeler John, tu peux appeler Steve, tu peux m'appeler afin que qu'on se retrouve. Bien-aimé, par toi seul, peut-être que tu ne peux pas t'en sortir. Peut-être que tu as essayé tout seul, mais tu te retrouves toujours dans le même péché. Mais je crois qu'avec l'aide des anciens, tu pourras être libéré complètement. Alors pendant que nous avons nos têtes baissées, si tu éprouves en ce moment de la crainte, parce que Jésus connaît la situation que tu traverses, parce que Jésus connaît la vie, ta vie que tu mènes et qui le déshonore, pourquoi pas lui demander pardon? Pourquoi pas crier à lui et dire, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je veux que tu me transformes, que tu me changes. Dis, Seigneur, je croyais que je pouvais m'amuser n'importe comment avec le péché et revenir me repentir et continuer le lendemain. Non. Dieu voudrait que nous puissions nous consacrer à lui, à lui seul. Il est jaloux. Il est un Dieu jaloux, bien-aimé. Pourquoi pas prendre une minute ou deux minutes pour prier à Dieu dans ton cœur? Parle à Dieu. Et après, je veux prier pour nous tous, afin que le Seigneur nous aide à être une église remplie de crainte de Dieu. Une église qui ne vit pas pour les hommes. Une église qui ne vit pas pour plaire aux hommes. Une église qui vit pour plaire à Dieu et faire sa volonté de chaque jour. Oui, il veut nous aider. Il veut t'aider. Parle-lui. Et parfois, bien-aimé, nous négligeons la communion fraternelle. Mais Dieu veut que nous puissions nous consacrer entièrement à lui. Pas seulement le dimanche. Quand nous venons le mercredi pour prier les uns pour les autres. Bien-aimés, ça fait partie de la communion fraternelle. C'est aussi là que nous puissions, que nous pouvons nous ressourcer. C'est là que tu peux apprendre à prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir. Parce que tu connais ma vie. Tu connais ma vie passée, tu connais ma vie présente. Tu connais tout, Seigneur. Je ne peux rien te cacher. Mes frères et sœurs ici, Seigneur Jésus, ce matin, tu les connais. Tu connais les difficultés qu'ils traversent. Tu connais même des choses dans lesquelles ils vivent et qui ne te glorifient pas. Seigneur Jésus, tu n'es pas là pour condamner, mais pour nous interpeller parce que tu nous aimes. Père Céleste, je prie, convainc-nous, Seigneur, du péché, du jugement, afin que nous puissions aspirer de la peur, de la crainte, et nous repentir. Je prie, Père Céleste, pour ceux-là qui traversent par des tribulations, par des souffrances, par des difficultés, et que l'ennemi cherche à décourager, que l'ennemi cherche, Père Céleste, à les amener dans la compromission. Je prie que tu les aides à tenir ferme, à ne pas lâcher, Seigneur, à ne pas retrograder, Seigneur. Merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis notre Église, Seigneur Jésus, afin que nous soyons cette Église qui t'honore et qui vit dans ta présence. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.